Qu'est-ce qui fait craindre l'actuel sautant au Burkina Faso et que signifient ces mises en garde de part et d'autre d'un côté et ces mains tendues vers le gouvernement de Traoré de l'autre? Depuis le coup d'État de 30 septembre dernier au Burkina, les États-Unis ne cessent de publier des communiqués dans lesquels ils mettent la junte en garde contre les risques d'une alliance avec la Russie. Les pays où le groupe Wagner a été déployé se retrouvent affaiblis et moins sûrs. Et nous avons constaté cela dans plusieurs cas, rien qu'en Afrique, a déclaré à la presse un porte-parole du département d'État américain, Vedan Patel. Nous condamnons toute tentative d'empirer la situation actuelle au Burkina Faso et nous encourageons fortement le nouveau gouvernement de transition à se conformer au calendrier convenu pour un retour à un gouvernement civil démocratiquement élu, a-t-il ajouté. D'un autre côté, les États-Unis, dans une note de leur ambassade au Burkina Faso, datée du vendredi 7 octobre 2022, ont affirmé leur soutien au peuple burkinabé et s'engagent à œuvrer à la paix, à la stabilité et à la démocratie. Tous ces agissements ne prouvent qu'une chose, la panique totale au sein de l'actuel sautant. Mais quelle en est la raison? Une coalition interafricaine qui prendrait ses débuts au Mali et qui s'étendrait jusqu'au Burkina et la Guinée semble être la première cause de cette panique. Les conséquences en seront irréparables pour cet axe, à savoir l'entrée de la Russie au Sahel et la diversité des coopérations des pays du Sahel avec les pays de l'axe de l'Est. L'inefficacité des sanctions imposées par la CEDEAO, comme on a pu le constater dans le cas du Mali, vers où la Guinée n'a pas hésité de transiter son pétrole durant la période des sanctions, et enfin la mise en danger des forces colonialistes au Burkina Faso après leur défaite et expulsion du Mali. Toutes ces conséquences seront fatales pour cet axe qui voit ses pions et ses plans tomber à l'eau, l'un après l'autre, d'autant plus que tout ceci s'ajoute à l'émergence d'une armée de l'air coordonnée entre les membres de cette coalition interafricaine qui bloquerait le ciel du Sahel à toute intervention aérienne étrangère. En effet, cette panique a été tellement grandissante que Barkhane n'a pas hésité il y a 3 jours d'attaquer un avion d'attaque au sol Sukhoi Su-25 Frogfoot à l'approche de la base militaire de Gao. Au Burkina Faso, le président Traoré a pris les devants et a envoyé des hélicoptères vers la province stratégique de Djibo, là où la force colonialiste a durant ces dernières années appuyé, afin de déstabiliser le pays et provoquer l'exode de la population pour ensuite mieux y implanter ses bases et ses pions. Bref, la France, les États-Unis et leurs acolytes se sentent plus que jamais en danger au Sahel et pour une fois, ils ont raison. Le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz, vient d'achever une visite de 48 heures au Bénin, où il est arrivé mardi. Le patron de Barkhane est arrivé avec le général Étienne du Pérou, commandant des éléments français au Sénégal. Selon les informations, les deux généraux sont venus expliquer les nouvelles orientations de la coopération militaire. L'armée française ne souhaite plus être en première ligne. Le nouveau partenariat défense sera consacré à la formation, à l'appui aérien et au renseignement, lit-on alors à ce sujet sur les médias mainstream. Cette visite n'augure rien de bon puisque depuis la première attaque terroriste contre l'armée béninoise que le chef du DSGE avait promise il y a quelques mois d'un ton sarcastique, quand il avait affirmé que selon ses évaluations, fin 2021, début 2022, la violence terroriste arriverait à la côte depuis le Sahel, eh bien cette visite est une mise en garde contre le Bénin. Suivant le chemin qu'ils ont appliqué au Mali, puis au Niger et enfin au Burkina, ce sont de mystérieux terroristes qui, sortis soudain du néant, tirent et tuent avant de disparaître dans la nature. Depuis l'annonce par Macron de la réorganisation des forces françaises en Afrique, Paris ne souhaite plus être en première ligne. Selon la même source, le général Baratz, accompagné du général Étienne du Pérou, commandant des éléments français au Sénégal, ont rencontré le ministre béninois de la Défense Fortuné Noatin, le patron de l'armée de terre et le numéro 2 du cabinet militaire du président Talon. Une quarantaine d'instructeurs français, déjà présents sur le sol béninois, participent déjà à la formation des soldats béninois. À lire ces informations, on voit très bien que cette visite est le début d'un redéploiement de Barkhane au Bénin, puisque le Burkina résiste à toute forme d'ingérence militaire étrangère qu'au Niger. Barkhane, déjà déployé, aura besoin des supplétifs dans le sud, et où serait mieux que le nord du Bénin. Le Bénin n'ayant connu aucune attaque terroriste jusqu'en décembre dernier, et les attaques sont survenues après que l'Axe-US-OTAN s'est rendu compte que, sans une infiltration au Bénin, il ne pourrait guère pénétrer dans le noyau de résistance sahélienne dont une partie se trouve au Burkina Faso. D'ailleurs, les mains rapports des agences de presse mainstream renforcent cette idée quand ils parlent de l'extension du terrorisme vers la côte, ou encore un article publié par Ouest-Afrique qui annonce clairement que les groupes extrémistes traversent régulièrement les trois régions de l'Alibori, de Bourgou et de l'Atakora frontalière avec le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Et ces trois pays sont depuis des années le théâtre de violences djihadistes et communautaires qui ont fait des milliers de morts et de déplacés. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est devenu une cible que les Occidentaux veulent absolument frapper pour non seulement bloquer le soulèvement de la population contre la présence française, mais également pour freiner la propagation de ce soulèvement dans les pays voisins. Car le point faible des troupes d'occupation occidentales dans le Sahel et le comportement néocolonialiste de ses chefs d'État, c'est bel et bien un soulèvement des populations sahéliennes. Si les peuples s'unissent dans le Sahel et se soulèvent simultanément, il est clair que toutes les puissances occidentales réunies ne peuvent plus rien faire face à une telle vague de protestations. C'est désormais officiel, les dernières forces militaires françaises présentes en Centrafrique vont quitter le pays prochainement. L'ambassadeur de France à Bangui a confirmé au ministère centrafricain de la Défense la fin de la mission logistique toujours installée à l'aéroport de Bangui-Poco. L'armée française va donc quitter le pays après 62 ans de présence, même si la RCA est indépendante depuis août 1960. Cela signifie clairement la défaite finale et le remake du scénario que la force française a vécu au Mali. Cette expulsion finale fait suite au gel des coopérations entre la RCA et la France en 2021 et l'interdiction des vols français sans l'aval du gouvernement centrafricain dans le ciel centrafricain. De plus, et plusieurs mois, la présence de la MINUSCA a été contestée en RCA à travers plusieurs manifestations organisées par le peuple. La RCA a en effet entamé cette lutte anticoloniale depuis des années à travers plusieurs décisions diplomatiques, militaires et économiques. Le gouvernement de Touadéra n'a pas hésité durant toutes ces années de renforcer les capacités de l'armée nationale et a clairement annoncé sa tendance pour une coopération avec le bloc de l'Est. En rappel, l'armée française qui occupait la Centrafrique de 2013 à 2016, sous la bannière de l'opération Sangaris et qui était censée sécuriser le territoire centrafricain, le résultat était bel et bien le même avec l'opération Barkhane dans le Sahel. Ces opérations se sont soldées par une montée de l'insécurité dans le territoire et même dans la région. De plus, en Centrafrique, cela a complètement anéanti l'armée nationale centrafricaine, le pays était occupé par l'armée française et l'insécurité ne faisait qu'augmenter. Avec l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra, épaulé par son équipe mais surtout par la population, la situation s'est nettement améliorée. D'autant plus que Bangui a préféré se tourner vers le bloc de l'Est pour créer des alliances afin de redresser la situation sécuritaire du pays. De plus, en plaidant pour la création d'une crypto-monnaie nationale, Touadéra a clairement mis une dernière gifle à l'Axe-US-OTAN dans le secteur économique. L'adoption du Bitcoin par Bangui en tant que monnaie officielle tranche clairement avec la position du pays vis-à-vis du statut juridique des crypto-monnaies. En effet, entre une interdiction implicite et l'adoption complète, la RCA est clairement brûlée, le franc CFA. Depuis l'adoption du Bitcoin par Bangui, le 26 avril, la conversion du franc CFA au Bitcoin a également subi des fluctuations inattendues. Car si les instances financières internationales avaient initialement botté en touche devant la décision de la RCA, estimant sans doute que le manque de connectivité et le désintérêt des populations se chargerait de faire couler le projet, l'attrait du bitcoin dans le pays a surpris le monde des finances. Bref, la fin de la France-Afrique en RCA est désormais conclue. Bientôt, la fin de cette instance colonisatrice sera également annoncée partout en Afrique.
En Éthiopie, pour pallier le manque d'eau, un projet d'accès à l'eau potable doté d'une enveloppe de 75,5 millions de dollars a été lancé ce vendredi. World Vision Ethiopie, une organisation humanitaire, a initié ce projet dénommé Water for Life en collaboration avec le gouvernement d'Addis Abeba. Dans un communiqué, World Vision Ethiopie a déclaré que l'objectif visait de fournir un accès à l'eau potable à 415 écoles, 281 établissements de santé et plus de 1,6 million de personnes dans 8 États régionaux. La fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance a financé les infrastructures qui devront également améliorer l'hygiène des communautés ciblées. Au Mozambique, un lot d'unités ferroviaires arrivées de Chine a été livré au port de Maputo pour l'autorité mozambicaine des ports et des chemins de fer. Il s'agit de la deuxième livraison d'un carnet de commandes comprenant 300 wagons, 5 locomotives et 90 voitures. La première livraison fin août 2022 constituait de 2 locomotive à moteur diesel et 150 wagons a été mise en service par le président mozambicain. Adaptés au transport de marchandises en vrac, les nouveaux wagons réceptionnés sont prévus pour l'acheminement du fret depuis et vers le Botswana, qui a récemment signé avec le Mozambique un contrat d'exportation de charbon via le port de Maputo. Le Mozambique est en effet devenu une alternative pour les exportations et importations sous-régionales depuis que les ports et chemins de fer sud-africains ne sont plus en mesure d'assurer continuellement cette fonction de relais logistique pour leurs voisins enclavés. Les soldats français vont définitivement quitter la Centrafrique. La France a finalement décidé de quitter la Centrafrique. Pour rappel, suite aux tensions avec le Mali, la France avait dû rapatrier ses soldats après des mois de tensions entre Paris et Bamako. Paris accusait Bamako d'avoir eu recours aux forces de Wagner, une décision que Paris jugeait inacceptable. Le Mali avait quant à lui rétorqué qu'il était souverain et pouvait travailler avec qui il voulait. Bamako avait par ailleurs dénoncé le double jeu de la France, affirmant qu'elle ne soutenait pas franchement le Mali. Paris vient de décider, d'après TV5, de retirer les derniers soldats présents dans le pays. 130 soldats qui étaient déployés dans le pays dans le cadre d'une mission logistique d'appui à l'armée centrafricaine devraient quitter le pays d'ici la fin de l'année. En RDC, plus de 200 prisonniers s'évadent de la prison de Matadi. Une évasion massive s'est produite à la prison centrale de Matadi dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. La grande évasion s'est produite ce vendredi 7 octobre 2022 après qu'une dispute entre deux policiers ait dégénéré. La dispute entre les deux policiers dans l'enceinte de la prison centrale de Matadi en début d'après-midi a favorisé la fuite des détenus. Sur les 202 évadés, seulement 24 ont pu être repris dans la ville.